BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque jour, BFM Patrimoine, ce sont deux heures d'expertise du monde de vos placements. Nos spécialistes qui se penchent sur votre épargne pour distiller un maximum de conseils. Et ces deux heures d'expertise débutent chaque jour par une virée sur les marchés pour prendre le pouls de la séance en cours à Paris. Séance encore un peu hésitante, Antoine Larigauderie.
Oui, on cherche une tendance. On avait des a priori plutôt positifs hein, ce matin et un CAC 40 qui a clôturé sur des plus hauts qui datent de fin mars. Donc concrètement, on a toujours un sentiment positif. Malgré tout, ça manque de jus. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a assez peu de volume à prévoir sur toutes les séances de fin de semaine. C'est Thanksgiving aux États-Unis, donc ce sera férié demain. Il n'y aura pas de séance à Wall Street. Il y aura une demi-séance vendredi. Donc les intentions d'investissement sont modérées. Et puis, on a alors énormément de chiffres à décortiquer aujourd'hui, notamment les indices PMI pour la zone euro. On aura le même genre d'indice du côté des États-Unis cet après-midi. Il y aura les commandes de biens durables aussi qui seront vraiment regardées. Et puis, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Ce sera ce soir, bien après la clôture à Paris. Donc, on a le temps d'avoir du grain à moudre et de ne pas prendre trop d'initiatives ce matin. Ça se sent d'autant que les chiffres PMI de la zone euro qui ont commencé à tomber montrent une contraction assez nette de l'activité. Alors, moins importante que celle qui était anticipé par les marchés. On voit que les indicateurs sont quand même au-dessus des consensus. Mais enfin, voilà, il faut prendre tout ça en compte. Donc, de fait, une tendance un petit peu hésitante. Moins 0,04% là pour le CAC 40. Donc, on est quasiment à l'équilibre. 6654 points. En avant-marché, on était en route vers les 6680. Du côté de l'Eurostock 50, on reste très légèrement dans le vert. Plus 0,04%. Et le DAX à Francfort, moins 0,21%. L'effet sur les taux d'intérêt sur le marché obligataire, à nouveau, une confirmation de la tendance à la fragmentation entre les États-Unis qui reste quand même relativement ferme, même s'il y a eu une petite consolidation, on reste proche des 3,8% à 3,76. Et puis, une bonne détente sur les taux européens. On est à nouveau sous les 2% pour le 10 ans allemand et à 2,45 pour le 10 ans français. Du côté des titres qui profitent le plus de ce début de séance, alors encore une fois, des valeurs liées à l'aéronautique, à la défense. On a Thales qui gagne 1,6% à 122,65. On a Safran qui gagne 0,4% à 116,06. Les valeurs de l'énergie aussi avec Total qui gagne 1,3%, 58,85 €. Le petit raffermissement des prix du brut commence à prendre de l'ampleur. On se rapproche à nouveau des 89 $ pour le baril de Brent de mer du Nord à 88,72 et le brut léger américain frôle les 82. On est à 81,90. Donc là, une très nette amélioration, un très net raffermissement des cours. À noter Elior qui gagne 2,7% après ses chiffres trimestriels. Le titre est à 2,44 € et Eramet, forte hausse, plus 4%, 77,40 €. Plus forte baisse du SBF 120. C'est OVH qui perd 3,8% à 13,70 €. A noter que Téléperformance perd 2,1% 210 €. C'est la plus forte baisse du CAC 40 et qu'on a une baisse marquée aussi autour d'STMicro qui perd 0,89%. On est à 36,65 ou Dassault Systèmes en 0,7 à 35,66 €. Donc c'est pas vraiment la matinée pour la techno. Le CAC 40 moins 0,04% 6655 points. Du côté des devises, l'euro reste relativement ferme au-delà d'un 0,3. On est à 1,0312. Cédric.
Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à La Défense et nous tout de suite on s'intéresse à toute l'info éco avec ce matin Aude Kersulec.
BFM Business, l'info éco, Aude Kersulec.
À la une, c'est aujourd'hui que va être nommé par décret présidentiel le PDG d'EDF. Luc Rémont prend la suite de Jean-Bernard Lévy. Il était auparavant chez Schneider Electric. Luc Rémont commencera son mandat dès demain par une visite du site du prochain EPR à Flamanville. Il devrait aussi accompagner la renationalisation d'EDF. Le feu vert a été donné hier soir par l'autorité des marchés financiers. Clarifier la rémunération des hauts fonctionnaires par une grille unique au lieu de 15 et simplifier le de primes avec une part variable dépendant de résultats. Le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini présente aujourd'hui sa réforme de la fonction de la haute fonction publique. 6000 fonctionnaires sont concernés. Deuxième jour des discussions des ministres européens de l'espace qui font état de concurrence entre pays pour remporter certains contrats. L'essentiel est de ne pas se faire distancer par les États-Unis et la Chine, selon le président du CNES, Philippe Baptiste, invité ce matin de la matinale.
On a fait tout au long de notre histoire du spatial en Europe des choix et qui ont permis de construire de très grands champions. Aujourd'hui, si je prends, je sais pas, nos satellitiers aujourd'hui, Thales ou Airbus, mais ils remportent sur un certain nombre de secteurs 80 ou 100% des appels d'offres ouverts internationaux ou mondiaux. Donc on a des champions incontestés.
L'OCDE appelle à accélérer sur le taux minimum mondial d'imposition des sociétés, soupçonnant une poursuite des pratiques d'optimisation fiscale. À ce sujet, ce soir, dans Good Evening Business, ne ratez pas l'ancien juge Renaud von Rumbuyck pour son dernier livre Offshore dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Ce sera à 19h15. Journée fatidique pour Crédit Suisse qui tient son assemblée générale à huis clos. L'augmentation de capital de 4 millions de francs va être soumise au vote des actionnaires. Crédit Suisse qui a annoncé ce matin s'attendre à une perte au quatrième trimestre, 1,5 milliard de francs suisses avant impôts. Sa banque d'investissement reste touchée par l'évolution défavorable des marchés financiers et la gestion de fortune est elle aussi en mauvais passe avec un retrait de 10% des avoirs depuis la fin septembre. Et enfin, on termine avec ce départ chez Kering. Alessandro Michele s'apprêterait à quitter Gucci, la maison de couture dont il dirige la création depuis 2015. C'est une information que rapporte le média spécialisé Women's Wear Daily.
Aude Kersulek que l'on retrouve dans une heure pour suivre cette actualité économique. Et nous, on se penche sur la conjoncture de ce mercredi.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Juliette Cohen nous accueille chez CPRAM. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Alors, dans l'agenda de ce mercredi, qui est sans doute un des plus chargés de la semaine, avec toute une flopée de PMI, ça a commencé ce matin en Europe, ça va se poursuivre cet après-midi aux États-Unis, avec parfois des mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de l'ensemble de ceux qu'on a déjà, qui sont tombés un peu partout en Europe ?
Alors pour l'instant, pour l'Europe, on a un PMI qui européen composite qui finalement ressort un petit peu plus élevé que pour le mois d'octobre, à 47,8 contre 47,3, alors qu'on attendait une nouvelle dégradation. Et on voit vraiment deux tendances un peu distinctes. En Allemagne, finalement, ça progresse légèrement, même si ça reste en zone de contraction. Et pour le coup, en France, la dégradation est un peu plus forte que prévu, notamment à cause des services. Et on observe en France la première contraction donc de l'économie française depuis février 2021. Et quand on regarde les commentaires de
Ça veut dire que cet indice PMI des services français est passé sous la fameuse barre des 50. On est à 49,4 pour le mois de novembre. On était encore à 51,70. Donc là, la marche est quand même significative il y a un mois.
Oui, tout à fait. La marche est significative. Et puis le commentaire donc de Marquis précise qu'il y a vraiment un affaiblissement de la demande qui se voit. C'était déjà le cas depuis un moment dans l'industrie. Maintenant, c'est le cas aussi dans les services. Les entreprises aussi pointent le manque de visibilité pour les prochains mois. Et puis, du côté des nouvelles un petit peu plus positives, on voit un affaiblissement des tensions d'approvisionnement qui a permis un ralentissement de la hausse des coûts pour les entreprises. Donc ça, c'est plutôt positif pour les développements concernant l'inflation européenne.
Voilà donc pour les PMI les plus proches de nous, ceux déjà tombés. Et puis, on aura aussi toute une série aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut anticiper là-bas ?
Alors, aux États-Unis, donc les indices pour octobre étaient déjà en zone de contraction. On attend une nouvelle baisse pour novembre, notamment une contraction dans les services. Et cette dégradation était déjà visible dans certaines enquêtes de conjoncture qui sont déjà tombées, notamment l'enquête de la Fed de Philadelphie qui avait très fortement chuté en novembre, et notamment les composantes nouvelles commandes qui étaient très très dégradées. Donc là aussi, ça montrait une dégradation de la demande aux États-Unis.
Voilà donc pour quelques idées à avoir en tête. Tout ça, qui sont des prises de température de notre économie, on va pouvoir les confronter à ce que pensent les banques centrales, puisqu'on aura des minutes et à la Fed tout à l'heure et à la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on va aller chercher, maintenant qu'on sait ce qui se passe dans l'économie, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans la pensée de nos banquiers centraux ?
Alors, côté Fed, hein, le dernier communiqué du FOMC apparaissait plutôt dovish, alors que Jérôme Powell, hein, le gouverneur de la Fed, était apparu lui plus dur, hein, en conférence de presse. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va chercher dans les minutes la mise en perspective des discours récents des membres du FOMC, ou notamment les plus faucons, hein, je pense à Christopher Waller, à James Bullard, apparaissaient moins faucons. Donc on va voir si cela se transparaît dans les minutes de la Fed. Et puis, côté européen, un élément qui nous paraît intéressant, c'est de savoir ce qui a motivé la grosse décision du dernier Conseil des gouverneurs, qui est la recalibration des conditions des opérations de refinancement à long terme, hein, les TLTRO 3. Et donc, on va chercher des éléments là-dessus.
Voilà donc les éléments à avoir en tête. Juste pour terminer, est-ce que la synthèse, finalement, ce serait pas « peut-on encore échapper à la récession ?»
Alors, ça fait un moment, hein, déjà qu'en Europe et aux États-Unis, les enquêtes se dégradent. Les PMI, hein, sont toujours un peu... Enfin, la dégradation montrée par les PMI était un peu plus forte que les enquêtes nationales. Et il apparaît maintenant clairement qu'on risque d'avoir une contraction de l'activité au moins en Europe au dernier trimestre de l'année. Donc, pour l'instant, les PMI montrent bien qu'on a un risque de contraction de l'activité qui est assez fort.
Merci beaucoup, Juliette. Juliette Cohen, ce matin, avec nous depuis CPRAM. Et donc, notez ces indices PMI américains qui tomberont cet après-midi. Le marché parisien, eh bien, lui, continue à être assez hésitant. Plus 0,05, 6660 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO, comme chaque mercredi, avec tous nos experts réunis autour de la table pour brosser un panorama le plus large possible de cette actualité immobilière. On retrouve cette semaine Bruno Monnier-Vinard, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Le Point, Pierre Chevillard, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour PAP et Marie Cœur de Roy qui nous accompagne chaque matin. Bonjour Marie.
Bonjour Cédric.
On commence par ce qui préoccupe tous les acteurs de marché. Je pense que personne ici ne commence son interview sans nous parler des taux, Pierre.
Oui, des taux, de la conjoncture, tout ça, oui.
Dur, hein.
Sur les taux, ça coince toujours. Enfin, on a l'impression de répéter toujours la même chose, mais c'est.
On n'est pas sorti des ronces, vous nous avez.
C'est ça l'expression.
Non, il a un petit peu tronqué.
C'est ça. On n'est pas sorti des ronces. C'est-à-dire que vous avez des taux qui montent très vite. On sait les OAT, l'inflation, etc., etc. Et puis cette barrière du taux de l'usure qui fait que quand les banques prêtent, elles prêtent en dessous du taux d'usure qu'on peut pas dépasser. Donc, comme le refinancement est beaucoup plus cher que les taux qu'elles pratiquent, c'est pas rentable. Donc, ce qui fait qu'elle trie les dossiers et que le taux d'usure, c'est une sorte, d'outil pour orienter la politique de prêt des banques vers la sécurité, parce qu'on sait qu'en 2023, ça va être compliqué. Donc, si vous faites une décote sur un crédit immobilier, ça veut dire que derrière, il sera rentable, mais vous allez prêter à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a de l'apport et qui vous offre le maximum de sécurité sur le remboursement. Ce qui veut dire que, Marie le dit souvent, on ne prête qu'aux riches, ça veut dire que ceux qui ont des petits revenus, ceux qui n'ont pas beaucoup d'apports, ils ont des taux d'intérêt qui sont élevés, qui souvent, dans les barèmes bancaires, sont équivalents au taux de l'usure, c'est-à-dire que si on rajoute l'assurance, c'est fini, c'est mort. Et le message des banques, c'est voilà, pour des simples raisons de règles de prudence et de sécurité, on ne peut pas prêter à cette clientèle-là. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, et le résultat, ça se fait sentir. Hein. Les chiffres de Crédit Logement nous disent que sur un an, on a une baisse du nombre de prêts accordés de 34%.
Mais c'est un vrai sujet, hein, surtout quand on voit que les taux, effectivement, là, à l'écran, on avait les chiffres d'Empruntis, le courtier Empruntis qui s'affichait, et qu'on voit que maintenant, alors effectivement, c'est pas la moyenne, c'est les taux max, mais vous avez quand même certaines banques qui vous proposent du plus de 3% sur 20 ans. Donc, ils savent pertinemment, le banquier, quand il vous propose ça, c'est pertinemment qu'avec un taux d'usure à 3,05, ça passera pas.
C'est juste qu'il veut pas vous dire dehors.
C'est exactement ça, c'est une façon à peu près polie de vous dire c'est pas possible, faut partir.
Le système est ainsi fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre le risque de vous prêter de l'argent.
Oui, moi je vais compléter avec vous financer qui me disait qu'il y a aussi Sandrine Allonier me disait il y a environ 2,5% toutes durées confondues, hein, pour faire une moyenne comme ça, une cote mal taillée. Mais elle me disait qu'il y a aussi une autocensure de la part des candidats qui pensent que leur dossier ne va pas passer. Et au niveau des investisseurs notamment, une attente. Ils se positionnent à la baisse, les prix vont baisser, et enfin les prix de l'immobilier vont baisser, ce qui n'est pas forcément un bon calcul, hein, parce que justement, si les taux continuent à grimper, il faut faire une équation un peu fine. Mais il y a aussi ce paramètre qui rentre en compte, et elle me disait... Ce sont comme tes chiffres, hein, à peu près 30% de prêts, de demandes de prêts en moins au final. Quoi.
Et on va arriver sans doute à un dossier sur deux qui sera refusé à cause du taux d'usure, comme ce qu'on a connu sur le trimestre précédent. Et pour cause, puisqu'on a un taux d'usure qui est fixé pour 3 mois, alors qu'on voit bien qu'au bout d'un mois, avec cette remontée des taux, ils sont complètement décalés. Quoi.
Mais justement, enfin, les autorités de marché, enfin, je veux dire, la Banque de France, soyons très clairs, nous a dit d'abord ne rien voir. Puis après, devant
l'évidence
de ce qu'on lui présentait, il y a eu cette espèce de petite prise de conscience, mais qui a été minime. C'est-à-dire que on va attendre quoi, comme à chaque fois, entre guillemets, d'aller trop loin, de glacer un marché.
Moi, c'est mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais moi, ce que je disais, c'est que je pense que le taux d'usure, c'est le seul mécanisme de régulation. Comment dire, pour sécuriser les financements. Parce qu'on ne va pas dire aux banques, vous arrêtez de prêter. C'est-à-dire que la banque, ce que je disais, elle va privilégier la sécurité. Il y a un communiqué de presse du HCSF le 15 septembre qui recommande aux banques d'augmenter leur coussin de fonds propres paracycliques parce qu'elles anticipent des défauts de paiement. Donc, pour pas que les nouveaux crédits immobiliers se situent dans cette logique-là, on va dire, eh bien, le taux d'usure va permettre d'écarter les dossiers fragiles. Et on ne prêtera qu'à ceux qui présentent le plus de garanties.
Et donc, comme ça, on s'assure que dans...
Voilà.
Et que, dans le temps qui vient...
Et que du coup, ça permet à la Banque de France... Je dis, et du coup, du point de vue de la Banque de France, on ne touche à rien parce que justement, on va dans le sens de la sécurité. Comme le veut le.
Mais ce qui est terrible, enfin moi après, ça c'est pareil, j'ai à peu près à l'image de Pierre. Moi, c'est mon avis et je le partage. C'est qu'à un moment donné.
Mais on est fiers de vous.
À un moment donné, ce qui est un peu gênant, moi je trouve, c'est cette communication, nous expliquer et de nous prouver que le taux d'usure aujourd'hui ne fait que protéger. Au départ, oui, il est censé protéger, mais aujourd'hui, on rappelle,
C'est au départ, à l'origine, un mécanisme qui se veut vertueux.
Oui, pour empêcher les banques de trop tarifer le crédit immobilier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des candidats à l'achat qui ont un coût de loyer, puisqu'ils sont aujourd'hui locataires, qui est supérieur à ce qu'ils auraient eu à rembourser en mensualité de crédit s'ils avaient pu décrocher leur crédit immobilier. Donc quand on nous avance l'idée que c'est pour protéger certains emprunteurs d'un éventuel surendettement, d'un poids trop lourd de l'immobilier, bla 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 bla, la réalité elle est tout autre. Et il s'agirait un peu, alors je sais que parfois on dit oui, mais vous défendez une corporation, celle des courtiers en crédit. En l'occurrence, ils ont des exemple très précis de candidats à l'achat, avec nom prénom, hein. D'ailleurs si la Banque de France est intéressée, c'est CAFPI qui a lancé son site Refus de Prêt qui est pour tous les sites, hein, pour tous les courtiers, pour tous les candidats à l'achat qui se verraient refuser leur crédit immobilier, et là on peut voir effectivement pour quelles raisons, quels motifs et de quoi ils partent et quels sont les dossiers qui sont refusés aujourd'hui, parce qu'à un moment ça va 2 minutes de nous expliquer, oui enfin vous êtes bien
parce
content.
Que c'est vrai que dans votre théorie Pierre, on se dit un ménage jeune, primo-accédant, avec un contrat de travail qui soit pas complètement à durée indéterminée. Bon, on peut comprendre que la banque, elle a envie de se faire ceinture, bretelle.
Et que la Banque de France cherche à les protéger aussi.
On est d'accord, mais oui, on a effectivement sur la table des exemples très concrets de couples, d'investisseurs, avec des salaires mirobolants, un reste à vivre conséquent. Et qui, malgré tout, rentre pas dans la grille.
Oui, puis
là, il n'y a pas de question de protection de la banque.
Non, il n'y a pas de souci, mais simplement, c'est. La banque, elle applique sa politique. En plus, elle a un gros avantage, c'est que quand elle refuse un crédit, elle ne vous dit pas pourquoi. Donc,
Après, ce n'est pas très, très étonnant. Hein. Le temps des marchés, ce n'est pas le temps normatif ou le temps administratif. Hein. Alors, c'est normal que chacun joue son jeu. Les courtiers grognent. Les banques disent bah non.
Pour vous, c'est un épisode de marché normal.
Non, je ne dis pas, je dis pas qu'au final, il n'y a pas de la casse. Mais malheureusement, il y a de la casse pour ceux qui se retrouvent au milieu. Mais en fait, chacun est un peu dans son rôle. Quoi. Et, après des années de de régime, vraiment de régime forcé. Hein. On a prêté énormément, on a acheté énormément en France. Là, bon, ben là, il y a ce point de grippage qui est un petit peu dommage. Mais la Banque de France a quand même fait des efforts en passant du trimestre.
Sauf qu'elle n'a pas revu son mode de calcul. Ouais. Et en plus, c'est un mode de calcul assez obscur puisque pour se faire le calcul pour le trimestre précédent, ils peuvent très bien regarder les stats du début du trimestre d'avant. Enfin, c'est complètement. Enfin, honnêtement, c'est quand même assez obscur la manière dont ils établissent ce fameux taux d'usure et les chiffres et les statistiques sur lesquels ils se basent pour fixer le taux d'usure du trimestre suivant. C'est quand même illisible. Donc à un moment donné, l'idée de dire on va essayer de faire au moins le mois et donc de coller au plus près à l'état du marché paraît quand même être un sujet de bon sens en fait.
D'accord, mais c'est quand même une grosse machine d'État. Ouais.
Il y a encore là on a vu qu'il y a eu un petit mouvement sur le taux d'usure la dernière fois. Là, c'est quand la prochaine réunion?
On aura le nouveau taux d'usure 1er janvier, mais là, alors fin décembre.
Donc, il va sans doute se passer la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir.
On va le remonter un peu.
Les banques vont faire passer le maximum de dossiers parce qu'elles ont quand même des objectifs commerciaux. Pour elles, le crédit immobilier, c'est le seul outil pour séduire de nouveaux clients. Donc ça va remonter, ça va durer. La dernière fois, ça a duré
3 semaines, 1 mois. Ouais.
Là, ça va durer 15 jours, 3 semaines, puis après les banques vont remonter leur taux en suivant l'augmentation des coûts de refinancement, etc.
Là où c'est la double peine, c'est pour les emprunteurs qui ne peuvent pas passer. Les taux pendant ce temps-là vont continuer à monter, avec aussi l'inflation en parallèle. Et peut-être qu'ils ne pourront pas accéder à leur projet.
Et avec des prix qui baissent un tout petit peu, mais comme Bruno le disait, pas dans la même mesure que la hausse des taux.
Non. Voilà donc pour ce point crédit qui fait à chaque fois réagir et occupe pas mal de nos échanges. Bruno, vous vouliez nous parler de Boulogne-Billancourt. On n'est pas loin des studios de BFM Business. Hein, alors, du pont quasiment.
Tout à fait. J'ai pris Boulogne-Billancourt. C'est intéressant. C'est une commune de 120 000 habitants, qui est donc limitrophe au sud-ouest de Paris et qui a la particularité d'avoir deux lignes de métro. Hein, je crois que c'est
la 10 et la 9.
Voilà, qui s'étend du bois de Boulogne jusqu'au quai de Seine, qui a une sortie rapide vers la Normandie et qui se singularise par son art de vivre. Il y a quand même, donc, outre les espaces verts, il y a des activités culturelles et sportives extrêmement renommées, réputées. Et puis, un parc immobilier où on trouve un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des vieux immeubles, des petits immeubles, mais qui ne sont pas dénués de charme. Il y a de l'haussmannien. Vous avez des résidences des années 70 à 90, avec des balcons et des terrasses, les fameuses terrasses qu'on recherche tant les extérieurs en période post-Covid. Et puis, vous avez des immeubles neufs, voire très récents, sur le quartier des Rives de Seine, qui est au sud de la commune, juste en face d'ici les Moulineaux. Alors, au niveau des prix, c'est une ville qui a rattrapé un peu son retard, malheureusement, sur la capitale, mais on gagne toujours quand même des mètres carrés en plus, à budget égal. Et puis, bien entendu, le fameux balcon dont je parlais tout à l'heure. Pour vous donner des ordres de prix, il y a trois zones, en gros, dans Boulogne. Vous avez le nord. Là, on a des prix à peu près parisiens, avec un habitat bourgeois qui est entre 9 500 et 12 000 € le mètre carré. Au centre, vous avez vers la station de métro Marcel Samba et le grand centre commercial qui s'appelle Les Passages, qui a un peu rééquilibré la ville. Là, on est entre 8 500 et 10 500. Et puis au sud, on baisse encore de 1 000 € au mètre carré. On est entre 7 500 et 9 500. Et ensuite, 10 000 € pour les fameux logements récents dont je parlais, et jusqu'à 13 000 pour ceux qui ont des grandes terrasses. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que notamment ce quartier de Rives de Seine, la mayonnaise est en train de prendre. Hein, et il y a de plus en plus d'activités. Il y a un parc qu'on voit en image ici. Il y a des restaurants, il y a des bars. C'est un quartier qui est en train de vraiment de vivre. Et je pense qu'il y a encore une marge de plus-value.
Ce sont les anciens de Renault.
Important, hein. Tout à fait.
C'est quand même assez hallucinant quand on prend la carte de cette ville Boulogne-Billancourt et qu'on regarde l'emprise que... La ville a grandi de quasiment 30% d'un coup d'un seul. Quoi.
Absolument. Donc,
c'est assez dingue d'inventer un quartier comme ça.
Ce qui est très bien, c'est qu'on y trouve, comme le disait Bruno, on y trouve du neuf à un prix où ça l'entoure 12-13 000 à peu près, sont les chiffres de l'Edil 75 dans sa dernière enquête. Et puis il y a aussi autre chose qui peut intéresser les investisseurs, c'est qu'en Boulogne, Les loyers sont encadrés, c'est le fameux encadrement des loyers quand on reconduit le bail. Mais l'encadrement des loyers tel qu'on le voit à Paris ou à Lille avec un loyer
capé,
un loyer médian, eh ben on n'y est pas. Donc ça veut dire qu'on a plus de facilité à gérer son loyer quand on investit.
Donc il y a du report qui peut se faire de Paris.
Donc voilà. Et en fait,
c'est la porte de Saint-Cloud.
C'est une sorte de 21e arrondissement de Paris, mais un peu moins cher, avec beaucoup de dynamisme. Donc.
Avec notamment du neuf, vous l'avez rappelé, et c'est une transition toute trouvée avec le point neuf que vous vouliez nous proposer, Pierre. C'est curieux ce neuf, parce que il a vécu ces dernières années une espèce de tango avec l'ancien.
C'est très schizophrénique, parce que d'un côté, vous avez des marchés qui sont... dire que c'est en contraction, c'est un peu faible. On peut dire que ça chute. Hein. Chez les constructeurs de maisons individuelles, on est à moins 27% de ventes sur les 8 premiers mois de l'année. Chez les promoteurs, autre, la conférence de presse avait lieu la semaine dernière, on est sur le troisième trimestre, on est à moins 22% de ventes par rapport au troisième trimestre 2022. Donc, avec des prix qui montent, avec l'inflation sur les matières premières, avec les problèmes de terrain, les problèmes de la réglementation environnementale 2020, l'ORT 2012, ça fait des logements ultra performants, écolos. Mais évidemment, ça fait monter les prix. Chez les constructeurs, les prix ont augmenté de plus de 20% en un an. C'est quand même très compliqué. Et en même temps, c'est un secteur qui est extraordinairement innovant. Vous avez, par exemple, je fais partie du jury du concours des pyramides de la FPI, ce qu'on a vu, mais c'est impressionnant. Vous avez de très belles rénovations, vous avez du bas carbone, et on fabrique de la ville, on intègre les nouveaux usages, on fait des jardins partagés, etc., etc. Donc là, j'avais un exemple à Montpellier, Roxim sort une tour végétale un peu comme celle de Boeri à Milan, avec l'idée, c'est que la végétation grimpe sur ces tours qui font entre 10 et 15 étages. Avec des appartements à double ou triple orientation, avec des espaces communs, enfin c'est absolument magnifique. Mmh. Et puis de l'autre côté, vous avez chez les constructeurs, par exemple Trecobat en Bretagne, il vous fait des maisons qui sont aux normes RE 2020 de 2025-2028. Ce sont des maisons en bois construites préfabriquées en usine. Vous voyez pas la différence une fois avec une maison traditionnelle quand elle est construite, et vous avez une réduction des consommations d'énergie, de l'empreinte carbone pardon, de 25%. Vous avez une réduction des consommations d'énergie de 30%. Vous avez des systèmes de gestion de la qualité de l'air intérieur où vous n'avez plus de polluants. Enfin, c'est voilà. Et en fait, c'est peut-être parce que la crise va durer un petit moment dans le neuf. Mais je pense qu'ils s'en sortiront parce que justement, ils sont capables de proposer ces produits. Le seul problème, c'est que c'est plus cher.
On continue bien évidemment notre Club Immo et ses questions sur le neuf. On ira notamment faire un petit tour à Nantes grâce à Bruno. Donc Bruno Meunier-Vinard, Pierre Chevillard, Marie-Cœur de Roy, le Club Immo qui revient dans un instant. D'ici là, on fera un petit détour par les marchés, la visite de Nicolas Dose. Et on sera de retour. Le marché, lui, pour le moment, eh bien, il essaye de se maintenir en territoire positif. On va voir quelles sont les données techniques du problème. Nos traders à la baguette dans un instant.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, ce sont deux traders qui sont devant leurs écrans et qui vous proposent leur vision, leur lecture de la séance en cours. Ce matin, on a Mathieu Cérone depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Mathieu. Et Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Bonjour Gilles. Merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous. Gilles, comment lisez-vous cet attentisme, ces hésitations de l'indice CAC 40?
Toujours de la même manière, on est sur un mouvement qui s'est totalement neutralisé. On a eu un petit mouvement baissier jeudi dernier, depuis c'est remonté. Et on est toujours dans la même zone de range que celle que je vous décrivais la semaine dernière. Alors on peut noter tout de même une certaine résilience des marchés, puisque les bonnes nouvelles, on l'a vu ces dernières semaines, ou les perspectives de bonnes nouvelles avec un possible ralentissement de la hausse des taux du côté de la Fed ont plutôt fait monter les marchés. On avait eu aussi la politique zéro Covid qui s'assouplissait en Chine, et donc ça avait aussi contribué à provoquer un mouvement de hausse. Et ce que l'on voit depuis, c'est que bon, on relativise un petit peu sur la hausse des taux de la Fed. Et par contre, du côté de la Chine, là, ça s'est nettement dégradé puisqu'on a une reprise du Covid. Mais en fait, c'est contrebalancé par, je dirais, le fait que si le Covid reprenait et donc grippait un petit peu la machine à production, cela pourrait réduire l'offre et donc l'activité du côté des États-Unis et tous les pays industrialisés, et donc pourrait réguler d'elle-même en fait l'inflation. Donc c'est pour ça que ce zéro Covid, enfin ce Covid qui reprend en Chine, a moins d'impact sur l'évolution des indices que précédemment. Donc on a une certaine résilience des marchés, mais sans aucune, je dirais, sans aucune conviction, c'est-à-dire on oscille toujours dans un range entre 6590 et 6650 points. On a eu un gap haussier ce matin, le gap a tout de suite été comblé, on est revenu au niveau de la zone des 6650 points. Donc la perspective reste neutre, légèrement haussière, c'est d'ailleurs ce que m'indiquent mes algorithmes, hein, puisqu'on a une probabilité d'évolution avec une conviction assez moyenne d'une neutralisation qui pourrait déboucher sur une hausse la semaine prochaine, avec en plus une fin de semaine bien qui sera avancée, hein, puisque toutes les statistiques qui ont lieu normalement mercredi, jeudi, eh bien, sont ramenées à la journée du jour, puisque demain sera férié du côté des États-Unis. Et donc, globalement, on reste sur les mêmes zones, à savoir donc une zone d'équilibre autour des 6590 points comme zone de support. On aurait une première alerte baissière en cas de cassure des 6520 points, puisqu'avec deux zones de points hauts autour des 6685, si on cassait cette zone des 6520 qui se trouve juste au milieu, eh bien, on aurait une configuration en quasi double top qui pourrait se matérialiser avec comme objectif donc la zone des 6380. Mais tant que l'on est sur, je dirais, une neutralisation qui ne donne pas de signaux baissiers, on peut continuer à viser un retour tout doucement vers la zone des 6750 points. On aura les minutes de la Fed ce soir. C'est peut-être un petit peu ce qui va débloquer la course au niveau des indices européens. Mais sinon, pas grand-chose à attendre. On a énormément de statistiques cet après-midi. Hein. Vous en avez déjà longuement parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Ouais. Donc pour l'instant, on reste dans cette zone d'attente.
Voilà le regard proposé par Gilles. Mathieu, chez Perceval, comment on se positionne sur ce marché? Quelles sont un petit peu les leçons que vous pouvez nous proposer?
On se positionne à l'achat, conformément à ce que l'on fait depuis pas mal de temps maintenant, mais à l'image du marché, sans aucune conviction, puisque on enchaîne une neuvième séance consécutive entre les mêmes limites, et depuis le CPI du fameux jeudi, donc il y a 10-12 jours, eh bien, les marchés calent, on évolue entre d'étroites limites. Alors, en effet, ce matin, les marchés ont tenté une sortie par le haut de cette zone-là, avec un futur CAC qui a ouvert à 6685 ce matin, à 8 heures, mais tout de suite, pas de relais, et on est revenu quasiment à la case départ, et ce qui nous a permis d'acheter, notamment autour des 6650. Donc on continue de travailler à l'achat sans se fixer véritablement d'objectifs. Si jamais on devait sortir de cette zone-là, voilà, je rejoins Gilles, il y a une zone à 6720 jusqu'à éventuellement 6750. Ce qui compte dans ce genre de situation-là, c'est les niveaux de remise en question. À partir de quel repli faut-il s'inquiéter? À partir de quel moment les probabilités de rebondir diminuerait? Et là, c'est pas évident du tout, puisque après une reprise de 17% comme ça a été le cas sur le CAC, à 17% sans aucune raison, c'est ça qui est stupéfiant. Donc on voit bien que les marchés sont drivés par des intérêts spéculatifs, par des algos qui sont à la manœuvre, et que la conviction reste très faible. Il suffit de regarder les volumes ce matin. On est autour de 350 millions sur Euronext, ce qui est assez faible. Alors c'est sûr qu'il faudrait agréger les autres systèmes, les systèmes multilatéraux de négociation, pour avoir une idée du volume global. Mais en tout cas, les marchés calent. On voit sur les actions. Là c'est pareil, hein, on a des actions qui donnent l'impression d'être un petit peu à bout de souffle, et je crains que cette hésitation perdure jusqu'au prochain CPI, parce qu'on a des marchés qui avancent par à-coups. Vous voyez, et ça c'est vraiment de la spéculation. On a pris 2, 3, 4% en quelques minutes lors du CPI du jeudi, et puis depuis il se passe plus grand chose. Donc on achète sur 6650, ça a pu être fait, on est prêt à compléter sur 6615-20. En effet, on aurait une première remise en question, enfin une première alerte, on va dire, sous les plus bas récents, vers les 6520, et on va dire que l'alerte serait un petit peu plus sérieuse si on passait sous la zone des 6400 points, 6400 points qui pourraient être l'objectif d'un repli un petit peu significatif, toujours qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière qui reste, voilà, qui reste haussière, qui ne remettrait pas en cause ce mouvement-là, mais on aurait une première remise en question un petit peu sous cette zone 6400, éventuellement 6350.
Merci à tous les deux. Donc Mathieu Cérone, Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux, qu'on le retrouve tout à l'heure. On se donne rendez-vous, Gilles, à 11h30 pour suivre cette séance. Le CAC 40 qui, pour le moment, se montre donc assez hésitant. Plus 0,04, 6660 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Un record pour la rémunération des patrons du CAC en 2021. Proxinvest indique qu'en moyenne, elle s'élève à 7,9 millions d'euros. D'où vient cette hausse ?
Hausse de 52% comparée à 2019. Ça vient principalement des parts variables et des bonus avec une très bonne année 2021. C'est vraiment, il ne faut pas dire salaire, il faut bien dire rémunération, il y a tout là-dedans. Il y a notamment des attributions d'actions à prix avantageux, voire des attributions d'actions de performance. Il y a aussi des rémunérations pluriannuelles de long terme. Et puis, il y a eu deux packages très importants en 2021 qui faussent la moyenne, parce qu'ils tirent la moyenne vers le haut. Le package de Carlos Tavares, c'est du tout compris, hein, avec des choses de très long terme, mais c'est ce sont 66 millions d'euros. Et celui de Bernard Charles pour Dassault Systèmes, 44 millions d'euros. C'est résultat, la rémunération des patrons du CAC représente, pour la première fois depuis 8 ans, 100 fois la rémunération moyenne de leurs salariés. Et c'est important de bien comprendre qu'on parle de rémunération et pas de salaire. Il y a tous les éléments variables liés aux aléas de marché, notamment dans ces rémunérations, qui sont calculés, par exemple, sur l'année 2021, alors qu'ils seront exercés dans 2, 3 ou 4 ans. C'est donc pas du cash aujourd'hui, mais un élément de rémunération, mais qui n'est pas en cash. Et on voit que quelquefois, on peut avoir des surprises avec notamment les actions. On a eu un chiffre extraordinaire hier, c'est la fortune d'Elon Musk qui a chuté de 100 milliards de dollars en 2022. Ouais. Et celle de Mark Zuckerberg de 83 milliards en 2022. Donc oui, ils ont des grosses fortunes, mais elles peuvent bouger pas mal. Et puis un dernier chiffre, on a donc le chiffre du CAC et également celui du SBF 120 par Proxinvest, 4,5 millions d'euros en moyenne. Et là, la hausse est de 22% comparée à 2019.
Est-ce que il faut se dire ces patrons sont trop payés ?
Ce sera l'éternel sujet. L'indignation sur les salaires des patrons, c'est quand même un sport très français. D'ailleurs, Carlos Tavares avait dit « on ne me pose jamais la question dans d'autres pays ». Je ne sais pas si ce débat existe de manière aussi enflammée dans d'autres pays. Il est clair que la hausse, si vous la prenez sur la période 2014-2021, elle est de 84%. C'est une hausse qui est trois fois supérieure à celle des salariés, mais encore une fois, ce sont des hausses qui sont liées à des éléments variables. Proxinvest avait établi à une époque ce qu'ils appelaient la rémunération maximale acceptable. Et la méthodologie m'échappe un peu, mais en tout cas, il l'avait fixé à 5,2 millions, cette rémunération maximale acceptable. Celle donc de 2021 est au-dessus. On a 29 patrons sur 40 qui sont au-dessus. Ils étaient 14 en 2020. On peut aussi se souvenir d'une année particulière, l'année de 2021, où certains grands groupes avaient annoncé des baisses de rémunération pour les patrons. Ça avait été le cas d'Accor, par exemple, ou de Sodexo. Il y avait des entreprises qui avaient réduit l'échelon de présence de 20% à plus de 20% pour les administrateurs. Et beaucoup d'entreprises cette année-là n'avaient pas versé de dividendes ou versé moins de dividendes.
L'impression qu'on a, c'est qu'on ne parviendra jamais, Nicolas, à réconcilier l'opinion avec ces rémunérations de grands patrons.
Jamais, jamais. Et c'est normal à la limite. C'est normal. Les montants sont totalement inaudibles pour la très grande majorité de la population. Il y a eu un drôle de chiffre dont on a pris conscience à l'occasion du versement du chèque énergie de 100 euros. Il était versé en fonction des revenus, pas simplement le salaire, mais les revenus. Il y a eu 38 millions de bénéficiaires en France. Il y avait donc 38 millions de personnes qui avaient des revenus inférieurs à 24 000 euros net par an. Qu'est-ce que vous voulez que je leur explique avec des montants pareils, que je leur donne le moindre argument qui fera qu'ils vont trouver ça normal et que finalement, ils vont dire « amène à tout, ça n'est pas possible ». Quand Carlos Tavares avait dit « je suis un salarié comme les autres », non, objectivement, non. Il n'est pas un salarié comme les autres. D'abord, il est un mandataire social. C'est donc une personne qui a été mandatée par une personne morale. C'est un statut particulier. C'est pas d'abord un statut de salarié. Et ce qui est assez dérangeant d'ailleurs, c'est que le mandataire social est quelqu'un qui n'a pris aucun risque et qui ne prend aucun risque fondamentalement. Après, je reste persuadé que le grand argument du « il faut des salaires importants parce qu'il faut de l'attractivité, parce que sinon les patrons vont aller ailleurs », j'y crois pas. Le mercato dans le foot, ça existe. Le mercato des grands patrons en France, ils crèvent pas les yeux. Et franchement, on n'a jamais eu d'éléments vraiment empiriques pour confirmer qu'il y avait un mercato des grands patrons. Après, un mandataire social, je me suis toujours demandé est-ce qu'il sera meilleur ou est-ce qu'il sera moins bon s'il touche 2 millions de plus ou 2 millions de moins. Franchement, est-ce qu'il fera un meilleur boulot ou un moins bon boulot ? J'avais été toujours surpris par cette formule de Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo, qui disait « quand vous êtes à 4 millions d'euros, si vous en gagnez 5, ça change quoi dans votre vie, en
fait? Ouais, c'est ça.
Mais si vous êtes à 5 et que vous en gagnez 3, ça change quoi? Ah oui, non, si on est à 25 000 et qu'on en gagne 100 000, ah oui, là, ça change la vie. Et fondamentalement, c'est pas complètement faux. Après, je suis aussi persuadé qu'on va assister de plus en plus à des rejets de rémunération de la part des assemblées générales, de grands patrons. Ça s'est déjà produit, ça s'est déjà accéléré. Il y a la loi Sapin 2 qui fait qu'en France, désormais, la décision, elle s'impose. C'est pas on est contre, mais ça change rien. C'est on est contre, et donc il n'y aura pas cette rémunération. Il y a un élément rassurant quand même quand on parle de ces histoires de rémunération, même si je ne suis pas en train d'essayer de réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit. C'est pas la peine que j'explique que c'est de l'argent privé, que c'est une décision de comité de rémunération, que ça a été validé par les actionnaires, que c'est lié à la performance, que c'est prévu dans son contrat. C'est inaudible. En tout cas, il y a quelque chose qui a un peu disparu, sont les primes à l'échec. Parce que ça, c'est franchement scandaleux.
Oui, un patron qui plante sa boîte,
la dernière, c'est
le Golden 2019,
Parachute. BFM Business, d'ailleurs, qui avait révélé l'info un matin, quand on apprenait que Thierry Pilenko, chez Technip FMC, s'en allait avec 14 millions d'euros alors que la boîte était en plein déclin. Ça, c'est la prime à l'échec. C'est franchement scandaleux. Après, je ne vais jamais trouver d'argument pour réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit.
Bon, il y a une petite solution.
Ah,
devenez actionnaire.
Ah oui, il y a ça. Puis il y a aussi quand même l'idée que...
Si on était tous actionnaires, on pourrait tous donner notre voix pour ou contre ces rémunérations lors des assemblées générales.
Par exemple.
C'est une formidable ode à l'actionnariat.
Il y a aussi une solution, c'est la fiscalité. On a une fiscalité en France sur le revenu qui est quand même relativement élevée. Mmh. Le fixe moyen du CAC 40 2021, c'est 1,2 million. Ça fait des rentrées fiscales importantes.
Aussi, oui.
Et ces rentrées fiscales importantes, eh ben, elles profitent quand même à la collectivité. Mais encore une fois, je ne trouverai jamais d'argument pour réconcilier qui que ce soit avec quoi que ce soit.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Nous, tout de suite, on jette un œil sur les marchés avant de retrouver nos experts de l'IMO.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché parisien qui grignote 0,15%, on est à 6667 points, c'est un peu partout pareil en Europe, plus 0,08 pour l'Eurostoxx 50, les principaux arbitrages. Dans le vert, on trouve de l'Alstom, du Thales, de l'Air Liquide et du Total, parmi les plus forts reculs du Téléperformance, du Stellantis, du Renault et du Michelin. L'Eurodoll est ce matin à 1,0319.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO qui revient avec autour de la table donc Pierre Chevillard, Bruno Monnier-Vinard et Marie Cœur de Roy. Tout le monde est prêt? On était dans le neuf avec Pierre, on reste un peu dans le neuf, quoi qu'il n'y a pas que du neuf. Vous nous emmenez à Nantes, Bruno?
Oui, je vous emmène à Nantes et je vais commencer par l'ancien si vous voulez bien.
Donc, allons-y.
Donc Nantes, c'est une métropole qui a été pas mal ciblée par les jeunes couples parisiens et franciliens, hein, parce qu'en un mètre carré, on est dans l'ancien en moyenne à 3700 euros, hein, c'est pas tout à fait les prix de la capitale. Mais ce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, après 5 ans de hausse continue des prix, la tendance est en train de commencer à s'inverser au printemps, se confirme cet automne, avec un nombre d'acheteurs qui a été divisé par 2,5 en l'espace de 4 mois, avec des délais de vente qui ont été, eux, multipliés par 3, et puis bien sûr des prix qui suivent et un volume de transactions qui s'est réduit. Alors, les maisons résistent encore un petit peu et les appartements avec extérieur. Mais pour le reste, là, ça baisse. On est sur une baisse, mais j'ai toujours du mal à donner des baisses annuelles parce que ça reflète mal ce qui se passe dans la réalité à l'instant T. Mais bon, on est à moins 2% en rythme annuel, mais c'est beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que pronostiquent les professionnels. Côté du neuf, alors pour l'ancien, je termine. Une maison, on peut trouver une jolie maison, 130 mètres carrés habitable, 300 mètres carrés de jardin, entre 400 et 500 000 euros. Dans des quartiers sympas. Et puis, au niveau des appartements, là, on est entre 4 000 et jusqu'à 6 000 euros dans l'hypercentre. Et dans le neuf, là, il y a quand même beaucoup de programmes neufs qui se sont construits ces dernières années. Malheureusement, ce marché, il est en train de s'assécher. Hein. Comme Pierre en parlait pour les maisons individuelles. Recul des ventes, de mise en vente de 10% et des ventes de 14% en un an et un nombre d'investisseurs qui s'est réduit d'un quart, c'est pas rien, avec des prix qui continuent malheureusement de grimper à cause du coût, enfin l'inflation des coûts des matériaux de 7% en un an. Voilà.
Voilà pour cette petite virée nantaise. Pierre, ce marché, on le sculpte aussi à travers un autre thème qui tient très fort à cœur de Marie Cœur de Roy, c'est la valeur verte des logements. Et les notaires, qui avaient été parmi les premiers à essayer de la quantifier, de la mesurer, continuent. Et du coup, ça nous permet, sur longue période, d'avoir l'évolution, la prise en compte de cette valeur verte.
C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est un peu le sujet, c'est un peu le copier-coller de ce dont on avait parlé avec Marie en 2019. C'est-à-dire que les notaires qui décortiquent les actes de vente ont les diagnostics de performance énergétique. Et donc, ils peuvent mesurer la différence de prix entre un bien AB par rapport à un bien D et les fameuses passoires thermiques par rapport à un bien D. Donc, ce qu'on voit, c'est par exemple, globalement, parce qu'après, ça dépend des régions, mais une maison qui est classée A ou B, ça se revend 6 à 14% plus cher qu'une maison qui est D. Et puis, les maisons F ou G, elles se vendent de 3 à 19% moins cher, toujours par rapport à un logement classé D. Alors, les appartements, ça commence à prendre, hein, puisque quand on est sur un classement A ou B, c'est 3 à 16% plus cher que par rapport à un logement classé D. C'est surtout sensible en Bourgogne, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Normandie. La décote pour les passoires thermiques contre un logement classé D est moins importante. Ça va de 0 à moins 10%. Moins 10%, c'est en PACA. Et alors, comme Marie le soulignait en 2019, c'est qu'à Paris, dans les secteurs denses...
Vous vous souvenez de ce que racontait Marie en 2019?
Comment est-ce
que
je Ma parole est d'or.
Et qu'à Paris...
On voit que vous ne l'avez pas tous les jours.
À Paris, là, par rapport à un appartement qui est AB, se revend simplement 3% de plus que s'il est D. Et les passoires thermiques, c'est 2% de moins. Alors, c'est le DPE de 2021. Aujourd'hui, il est plus exigeant. Ouais, et puis aujourd'hui, il y a la fameuse question des passoires thermiques.
Il y a les échéances qui approchent.
Voilà, il y a des échéances. Et on peut supposer que, vu la complexité et le coût des rénovations, les passoires thermiques qui vont arriver sur le marché, d'ailleurs, sont une petite musique qu'on commence à entendre. Quand il y a une passoire thermique qui est mise en vente, l'acquéreur, tout de suite, va essayer de négocier, notamment pour compenser le prix des travaux. Sachant que le prix des travaux en maison, il faut 15 000 euros pour passer une classe de DPE, c'est une cote mal taillée, hein, et qu'en collectif, il faut entre 30 et 35 000 euros. Les aides ne sont pas suffisantes, c'est extrêmement complexe. Il y a le Conseil économique et social qui s'est exprimé sur ce sujet.
Et qui veut essayer de pousser.
Voilà, mais pour pousser, il n'y a pas de secret. Pour pousser, il faut que le reste sa charge soit le plus bas possible. Alors, le gouvernement en a pris conscience, on a un éco-prêt à taux zéro qui est couplé à ma prime rénov, mais objectivement, je trouve, moi, personnellement, que c'est pas assez. Alors là, encore, ce n'est que mon opinion. Mais si on veut
vraiment pousser... Non, c'est pas qu'une opinion, là, Pierre.
Si on veut pousser à la rénovation, je me demande si la logique, ce serait pas de faire de l'argent hélicoptère et que... Voilà, alors, il y a des systèmes. Il y a le prêt avance rénovation, où quand vous faites des travaux, le prêteur se rembourse sur une partie du prix de vente du bien. Il y a des banques qui font des financements spécialisés, mais voilà, c'est toujours pareil. Et la vraie question, c'est de se dire, tiens, comme le performance revend plus cher, est-ce que je fais des travaux pour revendre plus cher? Ben non. Parce que si vous avez une maison qui vaut 200 000 euros et que vous mettez 100 000 euros de travaux, elle ne se revendra jamais 300 000 euros.
C'est ça. L'addition ne se fait pas.
C'est ça.
Il faut en arriver à cette proposition, entre guillemets, du CESE, de dire, faut rendre les choses obligatoires?
Non, ce que je vois, c'est que pour Paris, la chance, entre guillemets, des propriétaires de passoires thermiques, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est donc, exactement ça, il a tout à fait raison.
Donc, ça, en effet, aujourd'hui, c'est pris en compte, notamment si vous faites de la location. Mais quand vous êtes propriétaire, ça c'est un peu moins impactant. Le sujet de la rénovation énergétique, il est très intéressant en ce moment parce que c'est pas uniquement l'appartement qu'il faut regarder, c'est l'immeuble, c'est le diagnostic technique global de l'immeuble. Ça, c'est quelque chose qui va monter en puissance bientôt. Et il y a énormément de travaux thermiques qui sont faits dans la perspective des JO, notamment à Paris. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'appartement, mais aussi sur l'immeuble dans son ensemble.
Mais le vrai sujet, effectivement, je trouve que c'est ça, que c'est à regarder. Là, en gros, globalement, les territoires où vous avez majoritairement des logements peu performants, la décote sera forcément moins importante que dans des secteurs où effectivement on a beaucoup de neufs, on a beaucoup de logements performants. Mais c'est logique, quand on voit qu'à Paris le taux de passoire dans certains quartiers de la capitale, c'est... Ouais.
Vous nous avez tout à l'heure fait un bref aperçu en parlant du neuf, etc., de tout ce que l'innovation pouvait apporter. Alors c'est dans le neuf, mais est-ce qu'il y a de l'innovation aussi qui se casse dans ces passoires, dans cette lutte contre...
Sur la maison, c'est un objet technique qui est plus facile à faire. Mais ce qui est, donc, là, on peut isoler par l'extérieur, par l'intérieur, on met des pompes à chaleur, on refait des ventilations, c'est extrêmement important, parce que si vous isolez et que vous chauffez mieux, il faut bien ventiler. Ce sont des questions de qualité d'air intérieur, de confort, mais aussi de préservation du bâti. Ce qui est intéressant, c'est pour le collectif. Aujourd'hui, on fait ça, notamment avec des systèmes de rénovation par l'extérieur. En fait, c'est comme si on mettait
une enveloppe, quoi.
Voilà. C'est comme si on mettait un manteau. Et vous avez des sociétés qui font ça avec des technologies. C'est préfabriqué en usine. On fait une maquette numérique de l'existant, on fait une maquette numérique de ce qu'il faut rajouter, et on arrive et on peut faire ça en site occupé, sans faire bouger les occupants. Alors, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que ça coûte cher, voire très cher. C'est comme dans le neuf, hein, l'isolation par l'extérieur, ça coûte cher. Et puis, il y a des questions de préservation du patrimoine. C'est-à-dire que l'isolation par l'extérieur, si vous avez un magnifique immeuble, alors haussmannien, ou il y en a un pas loin de chez moi, à la place Étienne Pernet, qui est en style nouille, c'est un truc incroyable, avec plein de décors, tout ça. Ça, c'est...
On va y coller du polystyrène, vous
non,
allez
on
voir.
On peut pas. C'est protégé. Ouais. Mais donc, si on fait tout par l'extérieur, il y a une perte sur le patrimoine. Mais peut-être qu'un jour, il faudra choisir. On en avait parlé sur ces fameuses peintures qui renvoient la chaleur, les peintures blanches, les toits de Paris. Est-ce qu'il faut tous les peindre en blanc pour gagner 3 à 4 degrés de confort quand il y aura des canicules ?
Voilà donc la question posée. Un mot aussi de la métamorphose des bureaux, Bruno ?
Alors, je vais aller très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, et puis, on a deux sujets sympas pour finir.
Bon, OK. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel. Oui, pour les bureaux, le télétravail s'est invité dans la thématique tertiaire. Les chiffres, c'est quoi ? C'est aujourd'hui environ 10% de vacances de bureaux, des loyers qui sont en baisse de 5%, mais surtout, ça c'est très intéressant, des surfaces de travail qui se sont réduites, enfin en tout cas dans les nouveaux preneurs, entre 10 et 15%. Qu'est-ce qui se passe avec cette surface qui est économisée ? Ben, souvent, les sociétés vont réinjecter cette économie en prenant donc des surfaces plus petites, mais de meilleure qualité, et, grand paradoxe, un retour au centre, mieux situé. Oui. Plus central, et notamment vers Paris. Alors, avant, on partait de Paris pour gagner des mètres carrés. Aujourd'hui, on revient sur Paris pour être dans des immeubles de meilleure qualité, et notamment au niveau des métros, au niveau des nœuds de transport. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir des bâtiments très écolos, mais si vous faites la navette en voiture tous les matins et tous les soirs pour aller au bureau,
quel intérêt, ouais.
C'est ça le vrai catalyseur de la pollution, on le dit pas. Et alors, donc, comme le plan local d'urbanisme de Paris, le plan climat, interdit de construire des nouveaux mètres carrés, et on restructure l'existant. Souvent, on garde le squelette en béton. Hein. Donc, je vais citer trois opérations là, très emblématiques qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. L'immeuble Biome dans le 15e que vous connaissez, qui était fait par SFL, c'est un immeuble des années 60 où on a gardé l'exosquelette, on le voit en image, et on a mis des vitrages très modernes. Metal 57 à Boulogne-Billancourt, dont on parlait, sur le trapèze des usines Renault, c'est le nouveau siège de BNP Paribas Real Estate. Ils ont fait un peu un démonstrateur de leur savoir-faire, avec petite innovation technique, enfin grande innovation technique, une façade qui s'obscurcit en fonction du soleil, qui
s'obscurcit
en fonction du... Ça, c'est une grande tendance du bureau aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Et puis à l'intérieur, donc une rue intérieure, des plateaux modulables, ça on retrouve partout. Donc Renault à Boulogne, mais aussi Peugeot avenue de la Grande Armée dans le 15e, l'ancien siège de Peugeot, qui est transformé par Gecina et qui va accueillir le Boston Consulting Group. Voyez-vous. Bon. Et avec dans un immeuble...
On transforme.
Voilà, on transforme et on réemploie les matériaux que l'on transforme. C'est intéressant.
Allez, on termine. Il vous reste 45 secondes chacun, donc il va falloir être rapide. Pierre, le luxe à la montagne. Vous rêvez encore luxe. Des beaux chalets, des pots de bêtes, des
ça.
Cheminées.
C'est-à-dire que le concept est connu. Vous faites des immeubles avec le style chalet, du bois, de la pierre, des très beaux matériaux. Vous faites des très grands appartements, 150, 180, 200 mètres carrés, des grandes terrasses. Dans certains, vous pouvez mettre des services. Vous avez un cuisinier à domicile, etc., etc. Donc c'est dans des grandes stations. J'en ai trouvé deux. J'ai trouvé, il y a Promosis Rising Stone qui à Méribel propose 3 nouvelles opérations, évidemment très bien placées, etc., etc. Bien. Et donc les prix, ça peut démarrer à 12 000, ça peut démarrer à 14 000 euros du mètre carré, et la plus chère démarre à 21 000 euros du mètre carré.
Ben,
21 000 euros de carré, c'est les programmes parisiens de grand luxe.
C'est ça.
Et la deuxième opération, c'est le groupe Vala à Mégère, Valaneuve, qui commercialise les chalets d'observatoire. Alors là aussi, on n'est plus sur la résidence de tourisme telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voyait il y a 20 ans. Voilà, Il y a 21 appartements, ça va de 108 à 212 mètres carrés. C'est à partir de 1,6 million. C'est très beau, c'est très bien placé. Et forcément, c'est très cher.
Voilà donc pour le point sympa de Pierre Chevillard. Et vous, vous nous avez dégoté à Rennes. Alors, on aura voyagé avec vous ce matin.
Oula.
Un hôtel complètement perché.
Absolument. C'est à 30 minutes en voiture au sud-est de Rennes, à Pirey-Chancé. Donc, il y a un domaine qui s'appelle le Château des Pères, qui appartient à la famille Legendre depuis 2011. Et il y avait déjà un parc de sculptures, restaurants, etc.
Mais là, ça y est. Il y a les images pour ceux qui ont la télé.
Ils viennent de faire germer une sorte de tour néo-rétro-futuriste avec 36 chambres d'hôtel qui sont perchées jusqu'à 28 mètres de hauteur.
C'est vraiment ça, ouais. Rétro-futuriste, parce qu'on a vraiment l'impression d'être plongé dans les années 70 quand
même. Absolument, donc c'est une espèce de coque métallique comme ça qui sont nichées le long d'un faux arbre. Ça a été fait par l'agence Unité, il faut les citer, et l'agence Wunder Architect. Et donc c'est un peu l'image d'une graine qui a poussé dans ce jardin potager là. Et c'est assez rigolo, et avec des oculus qui vous permettent d'avoir des vues plongeantes sur la campagne, le château du 18e siècle, tenez-vous bien, et le parc de sculptures. Mmh. Et puis si on s'ennuie, on a un petit. On a quand même une piscine, un spa, un hammam et un restaurant gastronomique qui surplombe le jardin potager.
Ça change du granit et des ardoises, mais...
Voilà. Pirey-Chancé, le château des Pères. Et l'hôtel, c'est essentiel avec un C, bien entendu.
Et bien entendu.
Bruno Meunier-Vinard, Le Point, Pierre Chevillard pour PAP, Marie-Cœur de Roy animait ce mercredi le Club Immo. Merci à tous les trois.
Merci.
Pour ces voyages immobiliers. Le marché parisien, lui, eh bien, il hésite toujours, il se cherche. On grignote 0,17%, 6668 points. On va voir dans un instant ce qu'on nous en dit du côté de Ports-en-Part. Et puis n'oubliez pas les replays qui vous attendent sur le site.